RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Lutter contre la malnutrition, 1,2 tonnes de médicaments et 3 tonnes de nourriture supplémentaire pour les bébés sont envoyés à Asmat. Par la société anonyme exportera des navires de guerre vers l'Asie du Sud-Est à l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a dit la visite du président liée à l'économie et la paix. Le ministre de la Défense de la République Tunisie discutera des questions de l'architecture Indo-Pacifique avec son homologue américain. La mission commerciale indonésienne en Asie du Sud est enfin. Le député apprécie le gouvernement de donner l'attention à la durabilité des océans. Voici le journal complet. Le gouvernement a fait une réponse rapide sur les événements extraordinaires de la malnutrition et de la rougeole dans le district d'Asmat, en Papouasie. Le haut fonctionnaire du ministère de la Santé, Dodi Zuardi, a expliqué qu'il avait envoyé l'équipe de pilotage des soins de santé composée de 39 agents de santé de diverses professions afin de répondre aux besoins des services dans la résidence d'Asmat. Dans une interview avec La Voix d'Indonésie, lundi, il a déclaré que 1,2 tonne de médicaments avait été distribué. Pour répondre à l'apport nutritionnel des enfants de moins de 5 ou balita à Asmat, le ministère de la Santé a envoyé 1 tonne de l'alimentation supplémentaire au PMT balita, de 150 kg de PMT les femmes enceintes et de 150 kg de PMT des écolières provenant de l'inventaire central de réserve. Les réserves de la province de Papouasie ont envoyé jusqu'à 2 tonnes de PMT balita et 80 kg PMT de mère enceinte, 74 kg d'alimentation supplémentaire au PMT pour les enfants de moins de 50 ans et 47 kg pour les femmes enceintes ont été envoyés en coopération avec le TNI.
Nah, tapi sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah, ya.
Mais maintenant, cela a été fait par le gouvernement. Tous les envoyés, la nourriture. TNI, Polri ont donné de l'aide de toutes sortes. Ils sont immunisés, ils sont donnés l'éducation. La population totale est seulement 5 000, mais il est nomade et utilise des bateaux pour l'atteindre. Dodi a expliqué que la résidence d'Asmat a des conditions géographiques très difficiles à atteindre. Cette région est généralement constituée de marécages, de sorte que la source de nourriture est très limitée. La source de propre ne dépend que de l'eau de pluie, ce qui entraîne un assainissement inadéquat. La communauté vit dans la forêt et est nomade, de sorte que la couverture vaccinale est faible. Bien que cela ait été fait par les efforts maximaux par le personnel de santé, mais on ne peut pas augmenter la couverture de la vaccination et de la supplémentation en vitamine A de façon optimale. Le président directeur de PAL Indonesia Société Anonyme, Budiman Saleh, a déclaré que sa partie cible a exporté ses navires de guerre vers un certain nombre de pays dans le monde. De plus, actuellement, PAL Société Anonyme est entrée sur le marché de l'Asie du Sud-Est, à savoir la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et certains pays africains. Auparavant, PAL Société Anonyme a également mené avec succès l'exportation initiale de navires de guerre aux Philippines. Comme indiqué Kompas.com, Budiman Saleh au bureau du vice-président Jakarta l'a expliqué, le processus de pénétration de PAL Société Anonyme vers les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique vient d'être connu, les résultats de la prochaine. Il est optimiste avec le marché des navires de guerre de PAL Société Anonyme aujourd'hui, parce que ces produits sont aimés par un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Jakarta, a dit lundi que la visite d'État du président Joko Widodo dans 5 pays d'Asie du Sud dans le cadre de la coopération économique et la paix. Mercredi, le président commencera sa visite au Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Afghanistan. Retno a déclaré que les 5 pays étaient les partenaires indonésiens depuis longtemps et certains d'entre eux ont été avec l'Indonésie depuis le début de la lutte pour former la conférence afro-asiatique, mouvement des pays non alignés, etc. Pour renforcer la coopération avec ces pays, l'Indonésie propose PTA ou arrangement commercial préférentiel. La ministre a déclaré que l'Indonésie était d'accord sur le libre-échange, mais cela sera fait graduellement. Alors que la deuxième mission, la visite du président Jokowi dans 5 pays d'Asie du Sud, est de renforcer l'amitié et la paix. Selon la ministre Retno, la visite du président au Bangladesh liée aux questions humanitaires. L'Indonésie est assez longtemps avec le Bangladesh pour s'occuper des réfugiés venant de l'état de Rakhine. Le secrétaire américain à la défense, James Mattis, se rendra en Indonésie du 22 au 24 janvier. Le gouvernement indonésien préparera diverses questions à discuter entre les deux pays. Comme écrit Kompas.com, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a révélé au ministère des Affaires politiques, la loi et la sécurité à Jakarta lundi que l'une des questions qui serait discutée avec Mattis était le concept d'architecture régionale Indo-Pacifique de l'Indonésie. Le concept de l'architecture Indo-Pacifique est la coopération entre les pays pour créer la stabilité et la paix dans la région. Ce concept ne peut pas être dissocié du succès des pays d'Asie du Sud-Est pour prévenir la crise dans la région depuis plus de 50 ans. Selon elle, les États-Unis ont déjà un concept pour le développement Indo-Pacifique. Ce concept a été transmis dans certaines réunions au Japon, en Australie, en Inde. Même ainsi, il est temps pour l'Indonésie, en tant que grand pays dans la région d'Asie et du Pacifique, pour exposer le concept de l'architecture Indo-Pacifique aux États-Unis. Le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, effectuera une mission commerciale en Inde et au Pakistan du 22 au 28 janvier. Le gouvernement espère que cette mission commerciale pourra encourager les exportations indonésiennes vers des marchés non traditionnels et ouvrir de nouveaux marchés d'exportation en Asie du Sud. Dans cette mission commerciale actuelle, il y a 61 délégués d'affaires indonésiens. Le ministre du Commerce, dans le communiqué de presse accepté par la Voix de l'Indonésie, a affirmé lundi à Jakarta que les entrepreneurs indonésiens exploreront le potentiel du marché asiatique à travers une série d'activités de mission commerciale. En Inde, la délégation de la mission commerciale proposera des produits alimentaires et de boissons, du café, des épices, des produits agricoles, de l'huile de palme et ses dérivés, du sucre de coco, du rotan, de l'or, des craquelins et des pneus. Pendant ce temps, au Pakistan, la délégation de la mission commerciale d'Indonésie offrira les produits de l'agriculture, l'électronique, le thé, le textile, l'huile de palme et ses dérivés et le service. La série de missions commerciales sera commencée de l'Inde, puis au Pakistan, suit l'horaire de la visite de travail du président Joko Widodo en Asie du Sud. Le membre de la commission 4 du Parlement indonésien, Hermanto Langdi à Jakarta, a apprécié le gouvernement par le ministère de la Marine et de la Pêche pour ses politiques accordent une attention particulière aux aspects de durabilité de la zone océanique nationale. Selon lui, il faut avoir le sérieusement du gouvernement pour donner la plus grande opportunité d'attraper des poissons dans la mer avec des aspects environnementaux. Le gouvernement développe le secteur de la pêche et de la mer dans le pays en donnant l'attention aux aspects écologiques ou environnementaux durables. Pendant ce temps, le président directeur de Perum Perikanan Indonesia, Rishianto Suwanda, a déclaré que l'industrie de la pêche en Indonésie était une grande industrie avec le potentiel qui peut apporter des revenus à l'État jusqu'à des centaines de trillions de rupiah par an. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, la politique alimentaire nationale et l'exactitude des données. La nourriture, en particulier le riz, reste le besoin vital de la société indonésienne jusqu'à présent. Par conséquent, la souveraineté alimentaire devient l'un des agendas du plan national de développement à moyen terme pour 2015-2019. À l'ouverture de la 15e conférence nationale de HIPMI, le 10 janvier 2015 à Bandung, le président Joko Widodo ordonne au ministre de l'Agriculture à être autosuffisant en nourriture dans les 3 prochaines années, ce qui signifie cette année 2018. L'autosuffisance est commencée avec le riz suivi par d'autres aliments. À cette occasion, le chef d'État estime qu'il n'y aura pas d'importation de riz après 3 ans. En effet, à partir de l'augmentation significative du prix du riz depuis décembre 2017, le ministère du Commerce a décidé d'importer 500 000 tonnes de riz en Indonésie qui arriveront en Indonésie avant la fin de janvier 2018. Par la suite, le plan du gouvernement d'importer du riz à la fin de janvier est très proche avec une récolte qui tombera en mars 2018. Il est possible que la distribution de riz emporté nuise réellement aux agriculteurs. Citant liputang6.com du 16 janvier 2018, les importations de riz ont été effectuées pour assurer l'approvisionnement du riz dans le pays et pour réduire le prix du riz sur le marché. Le prix du riz a augmenté en raison de données inexactes sur la production de riz. Selon Dwi Andreas Santosa, observateur agricole et professeur à la Faculté d'agriculture de l'Université agricole de Bogor, l'augmentation des prix du riz peut être surmontée si les données disponibles sont exactes. Jusqu'à présent, les prix du riz augmentent souvent parce que les données de production et la consommation ne sont pas claires. Pendant ce temps, membre de l'Ombudsman de l'Indonésie, Ahmad Alam Shah Saragi, a déclaré que jusqu'à présent, le ministère de l'Agriculture a déclaré si la production de riz était excédentaire et le stock était suffisant. Cependant, cette déclaration est basée uniquement sur des estimations de la superficie récoltée et de la production de padi, sans les données sur la quantité et la répartition concrète des stocks de riz. En fait, les données considérées comme exactes, en particulier en ce qui concerne la disponibilité du riz, peuvent être vues à partir des mouvements de prix. Le principe de base est un équilibre entre la demande et l'offre qui est généralement applicable. Plus les stocks de riz sont élevés, plus le riz du riz est bas et vice-versa. Des données inexactes sur le stock national de riz doivent être améliorées immédiatement, car elle risque le gouvernement à adopter la mauvaise politique. Concernant cela, l'Ombudsman a conseillé au gouvernement de fournir un soutien maximal au Bureau central des statistiques afin de fournir des données plus précises sur la production et le stock de riz. Il est temps que le gouvernement, en particulier le ministère de l'Agriculture, évalue les sources des données utilisées comme base de la politique alimentaire nationale. Les politiques devraient être basées sur les résultats de la recherche en ligne avec les réalités sur le terrain plutôt que de s'en tenir aux estimations. Donc, il n'y aura plus de politiques qui nuiront aux agriculteurs. Serditeur, c'est le commentaire pour ce soir.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 23 janvier 1919, la création du Parti fasciste italien. Ce parti est dirigé par Benito Mussolini. La formation du parti vise à remodeler le pouvoir impérial de Rome. Les membres du groupe sont toujours vêtus de noir, embrassant la doctrine de la dictature qui ne tolère aucune forme de liberté, adopte la doctrine de la dictature qui ne tolère aucune forme de liberté. En 1922, Mussolini et ses collègues ont contrôlé la ville de Rome. Il est le premier ministre et élargit sa puissance dans toute l'Italie. Mais en 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, Mussolini a été capturé par le groupe nationaliste italien et finalement condamné à mort par ce groupe. Le 23 janvier 1947, la naissance de Megawati Soekarnoputri. Madame Megawati Soekarnoputri, qui est née à Yogyakarta le 23 janvier 1945, est la cinquième présidente de l'Indonésie qui a pris ses fonctions du 23 juillet 2001 jusqu'au 20 octobre 2004. Elle a été la première présidente indonésienne. Elle est la fille du premier président de l'Indonésie, Soekarno. Madame Megawati est aussi la présidente du Parti démocratique indonésien de lutte, ou PDIP, depuis la séparation du Parti démocratique indonésien en 1999. Le 23 janvier 1950, la Knesset annonce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Le 23 janvier 1950, le Parlement israélien Knesset a annoncé que Beitul Maqdis était la capitale d'Israël. Cette annonce ne date que 2 ans de la formation de l'État illégal d'Israël. Cette annonce suscite immédiatement une forte réaction des pays arabes et des musulmans parce que Jérusalem est l'une des villes saintes des musulmans et a été la Qibla des musulmans. En raison de l'opposition généralisée, les efforts d'Israël pour obtenir la reconnaissance des nations du monde au sujet du déplacement de la capitale de Tel Aviv à Jérusalem n'ont pas reçu la bonne réponse. Les pays du monde sont réticents à déménager leur bureau de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et à ce jour, la capitale israélienne reste Tel Aviv. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie a actualisé la tolérance depuis longtemps. La tolérance est une attitude de respecter mutuellement et le respect entre les groupes ou les individus dans la communauté ou dans d'autres contextes. La tolérance évite la discrimination, bien qu'il existe de nombreux groupes ou groupes différents dans la communauté. C'est la tolérance citée par Wikipédia Bahasa Indonesia. L'Indonésie applique la tolérance depuis longtemps dans la vie.
Le président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, M. Zulkifli Hassan, a dit à Bandung Java West le jeudi 18 janvier que concernant la tolérance, le peuple indonésien n'a pas besoin d'être enseigné parce que l'Indonésie était un pays pluraliste et habitué à respecter mutuellement. Comme cité de mpr.go.id, Zulkifli Hassan a dit que le peuple indonésien a appliqué la tolérance depuis longtemps et est devenu la partie intégrante de la vie quotidienne. Selon lui, la tolérance est l'un des éléments des valeurs nobles de la nation indonésienne depuis longtemps. D'autres pays devraient apprendre la tolérance à l'Indonésie. La diversité de l'Indonésie, telle que la religion, la langue, l'ethnicité et la race est extraordinaire par rapport à d'autres pays. Ces conditions font éveiller un sentiment de respect mutuel. M. Zulkifli Hassan a également expliqué que d'autres nations très appréciaient l'atmosphère de tolérance en Indonésie. Selon lui, bien qu'il y ait un peu de friction, notamment liée aux élections régionales et présidentielles, il est raisonnable à condition que toutes les parties respectent l'unité nationale et de garder le rouge et le blanc. La tolérance est liée au deuxième principe de Pancasila, c'est une humanité juste et civilisée, comme par exemple, première, reconnaître l'égalité des droits fondamentaux et des obligations de tous les gens sans distinction de race, hérédité, religion, de sexe et couleur de la peau. Deuxième, améliorer une attitude d'amour mutuel entre les humains. Le troisième est de développer une attitude de tolérance. Quatrièmement, développer une attitude non arbitraire aux autres. Cinquièmement, respecter la valeur de l'humanité et des autres. Chers amis, c'était Modernisie de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Le gouvernement a fait une réponse rapide sur les événements extraordinaires de la malnutrition et de la rougeole dans le district d'Asmat, en Papouasie. Le haut fonctionnaire du ministère de la Santé, Dodi Zouardi, a expliqué qu'il avait envoyé l'équipe de pilotage des soins de santé composée de 39 agents de santé de diverses professions afin de répondre aux besoins des services dans la résidence d'Asmat. Dans une interview avec La Voix d'Indonésie lundi, il a déclaré que 1,2 tonnes de médicaments avaient été distribués. Pour répondre à l'apport nutritionnel des enfants de moins de 5 ou balita à Asmat, le ministère de la Santé a envoyé 1 tonne de l'alimentation supplémentaire au PMT balita, de 150 kg de PMT les femmes enceintes et de 150 kg de PMT des écolières provenant de l'inventaire central de réserve. Les réserves de la province de Papouasie ont envoyé jusqu'à 2 tonnes de PMT balita et 80 kg PMT de mère enceinte, 74 kg d'alimentation supplémentaire au PMT pour les enfants de moins de 50 ans et 47 kg pour les femmes enceintes ont été envoyés en coopération avec le TNI.
Nah, tapi sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah, ya.
Mais maintenant, cela a été fait par le gouvernement. Tous les envoyés, la nourriture, TNI, Polri ont donné de l'aide de toutes sortes. Ils sont immunisés, ils sont donnés l'éducation. La population totale est seulement 5 000, mais il est nomade et utilise des bateaux pour l'atteindre. Dodi expliquait que la résidence d'Asmat a des conditions géographiques très difficile à atteindre. Cette région est généralement constituée de marécages, de sorte que la source de nourriture est très limitée. La source de propre ne dépend que de l'eau de pluie, ce qui entraîne un assainissement inadéquat. La communauté vit dans la forêt et nomade. de sorte que la couverture vaccinale est faible. Bien que cela ait été fait par les efforts maximaux par le personnel de santé, mais on ne peut pas augmenter la couverture de la vaccination et de la supplémentation en vitamine A de façon optimale. Le président directeur de PAL Indonesia Société Anonyme, Budiman Saleh, a déclaré que sa partie cible a exporté ses navires de guerre vers un certain nombre de pays dans le monde. De plus, actuellement, PAL Société Anonyme est entrée sur le marché de l'Asie du Sud-Est, à savoir la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et certains pays africains. Auparavant, PAL Société Anonyme a également mené avec succès l'exportation initiale de navires de guerre aux Philippines. Comme indiqué Kompas.com, Budiman Saleh au bureau du vice-président Jakarta lundi expliqué le processus de pénétration de PAL Société Anonyme vers les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique vient d'être connu, les résultats de la prochaine. Il est optimiste avec le marché des navires de guerre de PAL Société Anonyme aujourd'hui, parce que ces produits sont aimés par un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Jakarta, a dit lundi que la visite d'État du président Joko Widodo dans 5 pays d'Asie du Sud dans le cadre de la coopération économique et la paix. Mercredi, le président commencera sa visite au Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Afghanistan. Retno a déclaré que les 5 pays étaient les partenaires indonésiens depuis longtemps et certains d'entre eux ont été avec l'Indonésie depuis le début de la lutte pour former la conférence afro-asiatique, mouvement des pays non alignés, etc. Pour renforcer la coopération avec ces pays, l'Indonésie propose PTA ou arrangement commercial préférentiel. La ministre a déclaré que l'Indonésie était d'accord sur le libre-échange, mais cela sera fait graduellement. Alors que la deuxième mission, la visite du président Jokowi dans 5 pays d'Asie du Sud, est de renforcer l'amitié et la paix. Selon la ministre Retno, la visite du président au Bangladesh liée aux questions humanitaires. L'Indonésie est assez longtemps avec le Bangladesh pour s'occuper des réfugiés venant de l'état de Rakhine. Le secrétaire américain à la défense, James Mattis, se rendra en Indonésie du 22 au 24 janvier. Le gouvernement indonésien préparera diverses questions à discuter entre les deux pays. Comme écrit Kompas.com, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a révélé au ministère des Affaires politiques, la loi et la sécurité à Jakarta lundi que l'une des questions qui serait discutée avec Mattis était le concept d'architecture régionale Indo-Pacifique de l'Indonésie. Le concept de l'architecture Indo-Pacifique est la coopération entre les pays pour créer la stabilité et la paix dans la région. Ce concept ne peut pas être dissocié du succès des pays d'Asie du Sud-Est pour prévenir la crise dans la région depuis plus de 50 ans. Selon elle, les États-Unis ont déjà un concept pour le développement Indo-Pacifique. Ce concept a été transmis dans certaines réunions au Japon, en Australie, en Inde. Même ainsi, il est temps pour l'Indonésie, en tant que grand pays dans la région d'Asie et du Pacifique, pour exposer le concept de l'architecture Indo-Pacifique aux États-Unis. Le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, effectuera une mission commerciale en Inde et au Pakistan du 22 au 28 janvier. Le gouvernement espère que cette mission commerciale pourra encourager les exportations indonésiennes vers des marchés non traditionnels et ouvrir de nouveaux marchés d'exportation en Asie du Sud. Dans cette mission commerciale actuelle, il y a 60 délégués d'affaires indonésiens. Le ministre du Commerce, dans le communiqué de presse accepté par la Voix de l'Indonésie, a affirmé lundi à Jakarta que les entrepreneurs indonésiens exploreront le potentiel du marché zut asiatique à travers une série d'activités de missions commerciales. En Inde, la délégation de la mission commerciale proposera des produits alimentaires et de boissons, du café, des épices, des produits agricoles, de l'huile de palme et ses dérivés, du sucre de coco, du rotan, de l'or, des craquelins et des pneus. Pendant ce temps, au Pakistan, la délégation de la mission commerciale de l'Indonésie offrira les produits de l'agriculture, l'électronique, le thé, le textile, l'huile de palme et ses dérivés et le service. La série de missions commerciales sera commencée de l'Inde, puis au Pakistan, suit l'horaire de la visite de travail du président Joko Widodo en Asie du Sud. Le membre de la commission 4 du Parlement indonésien, Hermanto, lundi à Jakarta, a apprécié le gouvernement par le ministère de la Marine et de la Pêche pour ses politiques accordent une attention particulière aux aspects de durabilité de la zone océanique nationale. Selon lui, il faut avoir le sérieusement du gouvernement pour donner la plus grande opportunité d'attraper des poissons dans la mer avec des aspects environnementaux. Le gouvernement développe le secteur de la pêche et de la mer dans le pays en donnant l'attention aux aspects écologiques ou environnementaux durables. Pendant ce temps, le président directeur de Perum Perikanan Indonesia, Rishianto Suwanda, a déclaré que l'industrie de la pêche en Indonésie était une grande industrie avec le potentiel qui peut apporter des revenus à l'État jusqu'à des centaines de trillions de rupiah par an.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Serviteurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire une visite culinaire en province d'Aceh. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. Pour vous, les amateurs de café, vous devez visiter l'Indonésie, car l'Indonésie est riche en café local avec une variété de goûts et de saveurs et de traitements. Il y a aussi une façon de présenter le café qui n'est pas moins intéressante que vous pouvez rencontrer dans différentes régions d'Indonésie, telles que café Jos, café Durian, café Tarik jusqu'à café Tubruk. Si vous visitez Aceh, essayez de profiter du café avec un mélange unique d'Aceh dans les magasins dispersés dans diverses régions à Aceh. En général, les cafés à Aceh vous offriront du café sangé, un mélange de café noir et du lait. Initialement, du café sangé s'est appelé du café sangeng. En langue Aceh, sangeng signifie fou, appelé fou parce que la dose du café et du lait dans le café sangeng est moins que le lait de café en général. Une dose beaucoup moins élevée rend le prix beaucoup moins cher que le café au lait ordinaire. Le nom sangeng a changé pour sangé parce que dans les années 1990, le café sangeng était populaire parmi les étudiants. Assez populaire parce que le prix est bon marché. La petite portion et le bon prix dans le sac d'étudiants font du café le plus compris de l'état de l'étudiant. C'est de là que vient le thème sangé qui signifie « sama-sama ngerti », soit « comprendre l'un et l'autre ». En plus d'avoir une histoire unique, le café unique d'Aceh a aussi un caractère unique dans la présentation. À l'origine, la poudre du café noir était placée dans un filtre en tissu. Ensuite, l'eau bouillante est versée dans le filtre plusieurs fois. Du café filtré sera étiré plusieurs fois, alternativement, et se déplacera vers une tasse ou un verre différent à plusieurs reprises. Tout simplement similaire à la façon de faire du thé. Une fois que vous vous sentez bien, le café est ensuite versé dans une tasse contenant du lait condensé sucré. Le dosage du lait ne doit atteindre que la ligne inférieure du fond du verre. Du café qui a été mélangé avec du lait est secoué jusqu'à devenir mousseux. Après cela, du café sangue est prêt à être servi. Bien que la dose soit inférieure à celle du café en général, le café sangue a une sensation gustative différente. Ce café a aussi un arôme distinctif. Lorsqu'il est apprécié, le goût du café est très fort avec un petit goût sucré du lait. Pour profiter d'un verre de café, il vous suffit de dépenser entre 10 000 et 15 000 roupias. Le prix dépend du type de café, de Robusta ou d'Arabica et de sa présentation chaude ou froide. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Apprendre l'indonésien ». Cette émission est une collaboration entre la voix de l'Indonésie et l'Agence de développement et de renouvellement de langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet pour aujourd'hui est pusat jajan di mana? Je répète, pusat jajan di mana? En français, où se trouve le centre de collation? Tout d'abord, je vais introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes lié au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer doucement et lentement deux fois et vous pouvez répéter après moi. Pusat jajan. Pusat jajan. En français, le centre de collation. Di mana? Di mana? En français, où? Sekarang. Sekarang. En français, maintenant. Jam berapa? Jam berapa? En français. Il est quelle heure? Jam satu siang. Jam satu siang. En français. Il est une heure de l'après-midi. Kenapa? Kenapa? En français. Pourquoi? Lapar. Lapar. En français, affamé. Makan, makan. En français, manger. Melihat-lihat. Melihat-lihat. En français, faire du shopping. Mall, mall. En français, centre commercial. Tahu, tahu. En français, savoir. Tanya. Tanya. En français, demander. Penerangan. Penerangan. En français, centre d'information. Permisi. Atau maaf. Permisi. Atau maaf. En français, excusez-moi. Lantai lima. Lantai lima. En français, au cinquième étage. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation intitulé « Pusat jajan di mana ?» ou en français « Où se trouve le centre de collation ?» Comme d'habitude, je vais prononcer doucement et lentement chaque phrase deux fois. cette conversation entre Nova A et Novi B au centre commercial. A. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? En français, mettons il est quelle heure? B. Sudah jam 1 siang. Sudah jam 1 siang. En français, il est 1h de l'après-midi. Kenapa? Kenapa? En français, pourquoi? A. Saya lapar sekali. Saya lapar sekali. En français, j'ai vraiment faim. Bagaimana kalau kita makan dulu? Bagaimana kalau kita makan dulu? En français, si on mange d'abord. B. Baiklah, setelah itu kita melihat-lihat lagi. Baiklah, setelah itu kita melihat-lihat lagi. En français, d'accord. Après ça, on continue de faire du shopping. A. Oh iya, di mall ini pusat jajan ada di mana? Oh iya, di mall ini pusat jajan ada di mana? En français, le centre de collation se trouve où? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? En français, tu sais? B. Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. En français, je ne sais pas. Mari kita tanya bagian penerangan. Mari kita tanya bagian penerangan. En français, demandons au centre d'information. B. Maaf Pak, mau tanya? Maaf Pak, mau tanya? En français, excusez-moi monsieur, je voudrais demander. Pusat jajan di mana? Pusat jajan di mana? En français, où se trouve le centre de collation? A. Ada di lantai 5. Ada di lantai 5. En français, il se trouve au cinquième étage. B. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci à vous d'écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons d'Andout chantées par Rafli. Voici sa chanson intitulée Douté. Bonne écoute.
Kasihku
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Rafli intitulée « Douter » qui raconte les doutes profonds qui est ressenti soudainement par quelqu'un qui espérait le suivre toujours. La chanson a été créée par Redouane Sao et sa musique a été élaborée par Ricky Sonnet II. Les paroles de cette chanson sont tristes. Cette chanson a été libérée en octobre 2017 avec un autre single de Rafli intitulé « Sandara ». Bon, chers auditeurs, écoutez maintenant l'autre chanson intitulée « Sandara ». Bonne écoute.
Sayangku, aku cinta kepadamu. Sandara, betapa ku mencintamu, betapa ku menyayangmu, ku selalu merindukanmu. Sandara, betapa ku mencintamu, betapa ku menyayangmu, kau selalu di hatiku.
Complète Muhammad Rafli Heriawan, ce chanteur a reçu un talent de chanteur depuis son enfance et il était habitué à chanter de scène en scène. Son nom a commencé à être connu comme un chanteur de dangdut lorsqu'il a suivi le concours de chant dangdut dans l'une des télévisions privées nationales. Bien que ne pas gagner le champion, la voix mélodieuse de Rafli a déjà été préférée par les amateurs de dangdut. En octobre 2017, il a publié deux singles. L'Indo est intitulé Sangdara, que vous venez d'entendre, composé par Ridwan Sow avec l'arrangeur Ricky Soletdo. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Rafli intitulées Bidadari Jiwa et Bunga Surgawi. Bonne écoute, à demain!
La voix de l'Indonésie, faites vers le monde.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.